VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Claire Morin-Gibourg avec vous pour cette seconde édition du Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Mutinerie en Côte d'Ivoire, des tirs sporadiques ont été à nouveau entendus à Boaké et au camp Akouedo à Abidjan. Insécurité au Mali, des employés de la Croix-Rouge ont été enlevés dans la région de Mopti. Emmanuel Macron a nommé un nouveau Premier ministre en France. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, des tirs nourris ont résonné ce matin à Boaké, épicentre des mutineries frappant la Côte d'Ivoire depuis vendredi. D'autres tirs ont été entendus en provenance des camps militaires d'Akouedo à Abidjan, malgré une nouvelle mise en garde de l'état-major des armées dimanche. Dans l'après-midi, un calme relatif était revenu dans ces villes avec quelques tirs sporadiques. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
Quatrième jour de mutinerie en Côte d'Ivoire. Des tirs nourris ont été entendus lundi dans les deux plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Boaké, alors que les soldats mutins réclament le versement de primes impayées. La ville de Boaké, deuxième ville ivoirienne, reste toujours aux mains des soldats mutins. Les mutins paradèrent dans la ville en tirant en l'air. La confusion règne encore à Abidjan. Dans la capitale économique, les tirs ont repris notamment dans le quartier d'Akouedo, qui abrite la plus grande caserne du pays. Au plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan s'est vidé peu après 9h GMT. Des usagers s'étaient rendus dans les banques mais n'ont pas pu avoir accès aux locaux en raison de la fermeture des établissements financiers et bancaires. Au sud d'Abidjan, la majorité des établissements scolaires privés et publics restaient ouverts. Ce matin, malgré les tirs, certains parents paniquaient et venaient chercher leurs enfants. Cet après-midi, les établissements se sont vidés. Les scènes de pillage sont enregistrées à Boaké selon des témoins. La maison du chef du protocole de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, a été pillée. Des armes et des munitions auraient été découvertes dans sa résidence à Boaké. Une mutinerie constatée dans plusieurs grandes villes du pays. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
À présent, direction le Mali, avec cette hausse de l'insécurité, 5 employés maliens du Comité international de la Croix-Rouge ont été enlevés hier soir dans la région de Mopti par des djihadistes présumés. Le point sur place avec notre correspondant à Mopti, Mamoudou Bokoum.
5 travailleurs du CICR ont été enlevés hier vers 22h à Togere-Koumbé, une localité située à 75 km de Tenenko. Parmi les 5 personnes enlevées, il y avait une femme. Cette dernière a été libérée et les autres ainsi que leurs véhicules sont entre les mains des ravisseurs. Ces humanitaires étaient en mission dans cette zone, une zone poreuse depuis le départ de l'administration due à l'insécurité qui y règne. Actuellement, dans le delta intérieur du Niger, en plus des attaques, les groupes armés procèdent à l'enlèvement des agents de l'administration. Le dernier en date est celui de l'agent de l'UNPS, Mamoudou Bokouma Mopti, pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, suspension du procès du dernier gouvernement Compaoré. Le président de la Haute Cour de justice, Mathieu Breguida Ouédraogo, a annoncé aujourd'hui sur soir à statuer jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel suite à des documents présentés par les avocats de la défense. Toutes les écoles primaires et secondaires publiques de Guinée-Bissau sont fermées. Les enseignants ont entamé une nouvelle grève de 10 jours pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire et de primes pour les années 2015 et 2016. Les professeurs réclament également l'embauche de leurs collègues contractuels non encore intégrés dans la fonction publique. En RDC, l'armée a présenté un bilan des violences dans le Kasaï central. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Kinshasa, le général de brigade Léon Richard Kasanga a annoncé que 390 miliciens ont été tués depuis fin mars. Il a ajouté que 39 membres des FRDC et 85 policiers avaient également été tués dans ces opérations. Le gouvernement nigérian a mis en place des mesures de surveillance à ses frontières après l'annonce d'une résurgence de l'épidémie d'Ebola en RDC qui a déjà fait 3 morts. Nous reviendrons sur cette épidémie dans notre partie magazine. Et puis Nigeria toujours, les conflits entre agriculteurs et éleveurs continuent de faire rage. Selon Bala Elkana, porte-parole de la police de l'État du Niger, 20 agriculteurs qui priaient dans une mosquée ont été tués samedi dernier par des éleveurs peuls. L'attaque a été menée en représailles au meurtre d'un éleveur survenu quelques jours plus tôt lors d'un affrontement opposant éleveurs nomades et agriculteurs autochtones pour l'accès à la terre, toujours selon ce porte-parole. Conflits et famine au Soudan du Sud, l'ONU a besoin de 1,4 milliard de dollars cette année pour venir en aide à 1,8 million de réfugiés. Ce budget, qui sera réparti entre le HCR et le PAM, ne concerne pas les 2 millions de Sud-Soudanais qui sont déjà déplacés dans leur pays. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle du pays entend en ce moment les arguments pour ou contre la possibilité d'organiser un vote de défiance à bulletin secret contre le président Jacob Zuma au Parlement. Des milliers de militants d'opposition ont profité de l'occasion pour descendre dans la rue et réclamer une nouvelle fois la démission du chef de l'État, Jacques Aristide.
Une nouvelle démonstration de force à Johannesburg devant la Cour constitutionnelle. Nous marcherons jusqu'à ce qu'ils partent, scandaient les opposants de l'Alliance démocratique et les combattants pour la liberté économique. Ces partis ont réuni leurs troupes pour soutenir leur action après avoir déposé cette motion de défiance contre le président Zuma à la suite du remaniement du gouvernement en mars dernier, marqué par le limogeage très controversé du ministre des Finances Pravin Gordhan. Monsieur Zuma, montré du doigt dans plusieurs scandales de corruption, avait déjà balayé d'un revers de main les protestations qu'il a qualifiées de racistes. Ses adversaires ont demandé le secret du vote au Parlement, persuadés de pouvoir retourner une partie des députés du Congrès national africain, surtout que la Grand-Une a également gagné les rangs de l'ANC, qui doit choisir en décembre prochain le successeur de Monsieur Zuma, en vue des élections générales de 2019.
En Zambie, le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema Lema, accusé de trahison et incarcéré depuis plus d'un mois, restera en détention au moins jusqu'au 22 mai. Monsieur Hichilema a été arrêté début avril pour avoir gêné le convoi du chef de l'État, son rival à la présidentielle, Edgar Lungu.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, la France a un nouveau Premier ministre. Édouard Philippe a été désigné par le président Emmanuel Macron pour former le premier gouvernement de son quinquennat. Portrait du nouveau locataire de Matignon avec Éric Manirakiza.
Édouard Philippe a 46 ans. Il est l'élu de droite modérée, mais peu connu du grand public. Député et maire de la ville du Havre, nord-ouest de la France, Édouard Philippe est proche de l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Dans sa jeunesse, il a milité pour le socialiste Michel Rocard avant de rejoindre l'UMP, devenu Les Républicains. Ce choix d'Emmanuel Macron reflète la volonté affichée de vouloir rompre avec les habitudes de la Ve République. Jamais un président social-démocrate n'avait nommé un premier ministre de droite. M. Macron vise à attirer une partie de la droite pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale aux législatives du mois prochain. Un autre test de la recomposition politique promise par M. Macron est attendu demain, c'est la formation du nouveau gouvernement. Mais déjà, Brice Hortefeux, proche de Nicolas Sarkozy, a lancé une flèche disant qu'un débauchage ne fait pas un équipage.
Et le nouveau chef de l'État français Emmanuel Macron se rendra jeudi ou vendredi auprès des troupes françaises au Mali. Emmanuel Macron avait annoncé dès son élection qu'il effectuerait rapidement une visite auprès des troupes françaises engagées sur une opération extérieure. Conflit syrien, les États-Unis ont dénoncé aujourd'hui l'utilisation d'un crématorium dans le complexe pénitentiaire de Saïdiania, au nord de Damas. Présentant une série de photos satellites lors d'une conférence de presse, Stuart Jones, le responsable du département d'État pour le Moyen-Orient, a exhorté le régime du président Bachar al-Assad à mettre fin à ces atrocités. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné aujourd'hui la Corée du Nord après le tir dimanche d'un missile balistique capable de transporter une grande et puissante ogive nucléaire. Selon Pyongyang, les États-Unis cherchent aujourd'hui à obtenir l'accord de la Chine pour que le Conseil de sécurité de l'ONU fasse preuve de plus de fermeté avec des sanctions plus sévères. Au Brésil, l'emblématique ex-président Luiz Inácio Lula da Silva, accusé d'avoir reçu des pots de vin dans le cadre du vaste scandale Petrobras, devrait être fixé sur son sort fin juin, une décision qui pourrait sceller ses ambitions de retour au pouvoir. Première en Israël, une femme juge d'un tribunal islamique a été assermentée lundi. Il s'agit également de la première femme nommée à la tête d'un tribunal religieux en Israël, Madame Anna Katib, avocate issue de la minorité arabe d'Israël, originaire de Tamra, a déclaré qu'il s'agissait d'un succès pour le système judiciaire et d'un succès pour les femmes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Nathalie Barge.
L'Afrique n'est pas épargnée par la propagation du logiciel de rançon WannaCry. Selon les données de MalwareTech, un blog spécialisé dans ce type d'attaque, les pays concernés par l'attaque seraient le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Kenya, la Namibie, le Zimbabwe et Madagascar. Smart Africa et Cyberlibris ont signé un nouveau partenariat qui permettra aux universités et bibliothèques africaines un accès libre et plus rapide au savoir. Cela permettra de collecter des données sur la lecture électronique afin que la plateforme puisse répondre plus efficacement aux recherches. Nous essayons de combler l'écart en termes de contenu numérique entre les établissements universitaires du Nord et du Sud, a déclaré François Lascaux, président du conseil d'administration de Cyberlibris. La ministre sud-africaine de l'énergie, Mamoloko Kubayi, a annoncé la signature de nouveaux accords prochainement pour la relance du programme nucléaire civil. L'Afrique du Sud a signé ces dernières années des accords avec la France, la Chine, la Russie, les États-Unis et la Corée du Sud en vue de l'attribution finale du contrat nucléaire. Mais fin avril, la justice a suspendu trois de ces accords, donnant raison à des ONG qui dénonçaient l'opacité du processus. De nouveaux accords avec ces pays vont être signés, a dit Madame Kubayi, indiquant que la procédure sera soumise à l'examen du Parlement.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
On commence bien sûr par la CAN des moins de 17 ans au Gabon.
Suite de cette première journée ce lundi, le tenant du titre, le Mali, sera face à la Tanzanie et en second match de la journée, Angola-Niger. Et hier, c'était un véritable festival offensif. Deux matchs, 10 buts. D'abord, le pays organisateur, le Gabon, qui a été surclassé d'entrée par le Sili National de Guinée, 5-1. Dans le second match, les Black Stars, les jeunes Ghanéens qui n'ont pas fait de détails devant le Cameroun, le score 4-0, Guinéens et Ghanéens qui se partagent la première place de ce groupe A.
Le Burkina Faso, grand vainqueur du Tour du Bénin 2017.
Il a fallu attendre la dernière étape, un critérium de 80 km à travers les rues de Cotonou pour connaître le vainqueur de cette édition 2017. Abdulaziz Nikema succède ainsi à un autre Burkinabé, Mathias Sorgho. A noter que la cinquième étape de ce Tour du Bénin a été remportée par l'Ivoirien Abou Sanogo en 1h49 et 52 secondes.
Football, transfert en Allemagne.
Le milieu de terrain guinéen Ibrahima Traoré a prolongé son contrat avec Mönchengladbach jusqu'en 2021. C'est ce qu'annonce le club. L'international de 29 ans était sous contrat jusqu'à fin 2018. En trois saisons avec le club, il a joué 87 matchs et marqué 13 buts.
Match en retard en Angleterre.
Manchester City qui tentera de garder son avance sur Arsenal dans la course à la Ligue des Champions, alors que les deux équipes s'affrontent à distance demain soir lors des derniers matchs en retard du championnat d'Angleterre. En cas de victoire des deux équipes, demain, tout se jouera dimanche lors de la dernière journée et Liverpool, troisième, entrera alors dans la danse. Une défaite éliminerait Arsenal, sauf si Manchester City s'incline aussi.
Et bien sûr, les derniers résultats du championnat de basket nord-américain, la NBA.
Golden State a souffert dans le premier match de la finale de la Conférence Ouest. Relégués à 25 points et longtemps méconnaissables, les Warriors sont venus à bout 113 à 111 des Spurs de San Antonio, affaiblis par la sortie sur blessure de Kawhi Leonard.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. L'ONG Human Rights Watch dénonce dans son rapport publié aujourd'hui les abus sexuels commis par des militaires ougandais déployés en République centrafricaine. L'enquête a révélé qu'au moins 16 femmes et jeunes filles de la ville d'Obo ont été violées ou exploitées par ces soldats. Pour comprendre l'affaire, Dilidiko a joint à Nairobi Lewis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch.
Nous avons documenté 16 filles et femmes qui étaient soit violées ou soit exploitées par les soldats ougandais. Parmi les 16, 15 qui étaient enfantées. La plupart des filles et femmes sont des filles et femmes qui étaient déplacées par la violence, soit la violence par la LRA, le Lord's Resistance Army, soit par rapport à la violence dans la RCA en général.
Ce n'est pas la première fois qu'il y a des accusations comme ça. Qu'est-ce qui a été fait par rapport aux cas précédents, par exemple avec l'opération Sangari, s'il y avait aussi eu des accusations? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des poursuites en fait?
Pour le Sangari et pour les forces onusienne, il y a une suite. Ce n'est pas idéal, mais au moins il y a une suite. Par exemple, en France, il y a une suite judiciaire. Jusqu'à maintenant, nous à Human Rights Watch, on ne croit pas que le juge d'instruction et les enquêteurs français, ils ont fait leur travail en RCR comme on veut. Mais au moins, il y a quelque chose. Même chose pour la force onusienne. Lorsqu'il y a une accusation contre un soldat onusienne, directement, le soldat en question, il est réenvoyé chez lui. Mais franchement, la réponse de l'Union africaine par rapport à cette genre d'accusation, c'est presque rien. Il n'y a pas de suite de Addis Ababa, le siège de l'Union africaine, et il n'y a pas de suite de Kampala et du Ouganda.
Maintenant, ce qui va se passer pour ces soldats ougandais, c'est qu'aucune poursuite ne va être engagée. Ils vont donc pouvoir partir en toute impunité?
Pour le moment, oui. Malheureusement, ils sont en train de partir en toute impunité. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de lancer ce rapport aujourd'hui même, avant le fermeture officielle de cette force, parce qu'ils sont en train de fermer, comme j'ai dit tout à l'heure. Et nous avons demandé les autorités ougandaises et les autorités de l'Union africaine de lancer une enquête.
Pensez-vous qu'on puisse réellement espérer un aboutissement de cette enquête?
Vu le comportement des autorités ougandaises, pour le moment, non. Mais si l'Union africaine demande Ouganda et faire une petite pression sur l'Ouganda, peut-être ça peut y aller. On espère.
Lewis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch. Il était joint à Nairobi par Dilidiko.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
De l'inédit au Bénin, un citoyen administrateur des sociétés saisit la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation de l'élection de Patrice Talon, le président, arguant de, je le cite, « l'achat de conscience des députés le 4 avril dernier lors du vote sur la recevabilité du projet de révision de la Constitution béninoise ». Des précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
L'histoire politique du Bénin retiendra désormais ce nom, Adoté Villandro, cet administrateur des sociétés qui se dit exaspéré par la corruption galopante au Bénin, qui a saisi l'opportunité des révélations de Rosine Vieira-Soglo sur l'achat de conscience des députés pour saisir la Cour constitutionnelle. Un recours en invalidité de l'élection de Patrice Talon, c'est l'intitulé de la requête. Pour les spécialistes des questions de droit, c'est un projet qui ne peut aboutir. Valentin Aronsou est juriste et observateur de la vie publique.
En invalidité du président de la République ne peut intervenir que lorsqu'on constate qu'il y a une inscription de faux dans le dossier de candidature du chef de l'État. Encore qu'il faut établir clairement que le président de la République a de manière claire et nette procédé à l'achat de conscience des députés.
Pour le requérant, l'achat de conscience qui aurait motivé le vote de certains députés au cours des débats sur la révision ou non de la Constitution serait la goutte d'eau de trop. Les députés s'insurgent d'ailleurs contre ce qu'ils appellent diffamation sur le Parlement. Gérard Benucci est député à l'Assemblée nationale. Il est membre de la Commission des finances.
Personne n'a jamais tenté d'acheter ma conscience dans son vote. Je ne vois pas. Ce serait très malsain de prendre l'argent avant d'exprimer mon vote. Alors là, ça, là, je n'hésite plus. Et je ne vois pas quel député pourrait accepter cela. Moi, je vote librement les lois. J'examine librement les textes de loi. Et je vote selon l'intérêt supérieur de la nation et selon ce que ma conscience me dit.
Et pourtant, l'Assemblée nationale a été toujours éclaboussée par ce genre de scandale où les voix les plus autorisées au sein de la société civile ont maintes fois dénoncé la facilité avec laquelle le Parlement, au lieu de contrôler l'action gouvernementale, préfère ne rien faire.
Ils oublient que, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, ils vendent leur âme, ils vendent leur conscience, ils vendent leur pays.
Pour certains Béninois, les députés en tant que représentants du peuple se doivent d'être irréprochables.
La question de la corruption et qui persiste et qui nous ruine aujourd'hui simplement parce que nous n'avons jamais décidé d'aller à la phase la plus essentielle qu'est la punition. Donc c'est comme si collectivement nous acceptons un peu de cultiver cette impunité qui se fait favorable alors à ce foisonnement de situation. Cette mandature a un défi.
Y a-t-il eu oui ou non achat de conscience des députés le 4 avril dernier? C'est en apportant les preuves que le requérant pourra donner du poids à la demande déposée devant la Cour constitutionnelle, même si en l'état la Cour constitutionnelle ne peut invalider une élection qu'elle a elle-même validée. Dans le rang des populations, on pense que dans un pays qui se respecte, la justice devrait s'autosaisir de cette affaire pour que si achat de conscience, il y avait eu que les coupables subissent les rigueurs de la loi. De Cotonou, Jeanette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé ont annoncé vendredi dernier une épidémie d'Ebola dans le nord-est de la RDC. Selon le ministre de la Santé, le bilan est actuellement de 5 morts. C'est la 8e fois depuis la découverte du virus que la RDC est touchée par cette épidémie. Solange Nyamulisa a joint le docteur Miatudila Malanga qui a découvert le virus Ebola pour la première fois en RDC en 1976.
Ebola, c'est une maladie qui nous frappe sans prévenir. Le virus vit en Afrique centrale, dans la forêt. Et une grande partie de la forêt équatoriale se trouve en République démocratique du Congo. Donc la République démocratique du Congo est exposée au virus d'Ebola plus que d'autres pays. Donc le virus vit là-bas, dans la forêt. Et la population congolaise, de temps en temps, rentre dans l'écosystème du virus d'Ebola.
Quel est le nombre de morts enregistrés jusqu'à aujourd'hui?
D'après le ministre, d'après ce qu'il a dit hier, il y a eu 5 morts sur les 9 cas qu'on a identifiés.
Quelles sont les mesures prises pour éradiquer cette maladie?
C'est la 8e fois que la RDC est attaquée par Ebola. Les 7 fois antérieures, la RDC a été capable de maîtriser l'épidémie en moins de 3 semaines. Et nous espérons que les mesures qui ont donné de bons résultats dans les épidémies passées vont être prises cette fois-ci également. Il s'agit d'abord, pour lutter contre Ebola, de donner la priorité à l'action de la communauté. Donc c'est la communauté qui doit se prendre en charge et les services de santé sont là pour soutenir le travail de la communauté. Et ce n'est pas le contraire comme on l'a fait en Afrique de l'Ouest. C'est la résilience des communautés congolaises appuyées par les zones de santé qui sont des entités, des petites entités décentralisées à travers toute la République. Ce sont ces entités-là qui soutiennent les communautés locales. Le niveau central, même le niveau provincial, viennent simplement en appui de l'action locale. C'est ça le secret de la lutte contre Ebola. Donc la recette que nous utilisons depuis 1914, c'est d'informer la communauté. Donc doter les communautés de la capacité de faire face à Ebola. Et c'est quoi? C'est simplement des mesures de protection. Il ne faut pas être en contact avec quelqu'un que vous soupçonnez être infecté. Mettre fin aux cérémonies traditionnelles que l'on connaît lors des funérailles. Faire attention à la consommation des viandes du gibier. Si la communauté prend ces mesures-là, on arrive facilement à mettre fin à l'épidémie. Il n'y a pas de médicaments jusqu'à présent pour traiter les cas d'Ebola. Et cette recette-là a donné de bons fruits jusqu'ici.
Docteur Miatoudila Malonga, c'est le docteur qui a découvert le virus Ebola pour la première fois en RDC en 1976.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
On parle de quelque 200 000 victimes, essentiellement des entreprises, dans au moins 150 pays, des victimes de la cyberattaque mondiale qui frappe la planète. Depuis vendredi, des millions d'ordinateurs subissent une attaque qu'on appelle ransomware. C'est-à-dire que les machines informatiques sont réellement prises en otage par un virus malveillant, par des individus qui demandent alors une rançon. Pour en savoir plus, Pagasekura a joint ici à Washington Drissa Dao. Il est expert en cybersécurité et il travaille pour le gouvernement américain.
Il s'agit essentiellement d'un logiciel malveillant qu'on appelle en français rançon logiciel. Autrement dit, c'est un logiciel qui verrouille vos données et les auteurs vous réclament de l'argent en contrepartie pour pouvoir libérer vos données. Donc c'est une rançon qu'on vous demande.
Et est-ce qu'on sait l'origine?
Jusque-là, on ne sait pas très bien qui c'est parti. L'une des difficultés qu'on a avec ce genre d'attaque, c'est justement... Il est très difficile de retrouver les auteurs et très vite parce qu'ils utilisent un réseau d'ordinateurs connectés qui peut être des milliers d'ordinateurs et c'est très très difficile de savoir d'où l'attaque vient.
Alors on parle de plus de 200 pays, hein. Est-ce qu'il faut beaucoup de monde pour lancer une telle attaque?
Non, pas forcément. Vous savez, il y a une technique qu'on appelle la technique du botnet. Le botnet, c'est quoi? C'est un ensemble d'ordinateurs que les hackers ou les attaquants prennent le contrôle et les relient entre eux. Et il suffit donc de demander à tous ces ordinateurs-là de lancer une attaque. Pour ce qui concerne cette attaque précise, ce que nous avons appris, c'est qu'il s'agit d'un logiciel malveillant qui a deux composantes. Une composante qui permet à la machine infectée ou l'équipement infecté sur un réseau de propager, c'est-à-dire de contaminer d'autres ordinateurs sur le même réseau, et une composante de rançon qui permet donc de chiffrer ou de verrouiller vos fichiers et à partir de là, on vous réclame la rançon.
Alors, il semble que l'Afrique n'a pas été très touchée. Hein. Comment on peut expliquer cela?
L'Afrique n'est pas touchée, c'est vrai. Il peut y avoir plusieurs explications. Vous savez que l'Afrique, d'abord, n'est pas aussi connectée au réseau Internet comme le reste du monde. Donc, ça, c'est dû au gap numérique qui existe entre l'Afrique et le reste du monde. La seconde explication, de mon point de vue, peut être due au fait que l'Afrique n'est pas connectée aux moyens de paiement comme le reste du monde. Vous savez que cette attaque consiste essentiellement à réclamer une rançon du moins, et voilà, pour la payer, il faut passer par une monnaie virtuelle. Et cette monnaie virtuelle qu'on appelle le Bitcoin, elle n'est pas accessible, de mon point de vue, à tout le monde en Afrique. Et les auteurs de cette attaque, naturellement, savent que réclamer de l'argent à des entreprises ou à des structures publiques africaines, ce serait peine perdue.
Drissa Dao, expert en cybersécurité, ici à Washington. fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Bill Barber. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Et on maintient bien sûr la conversation sur notre page Facebook. Oh non, restez avec nous tout de suite. Sporama, présenté par Nicolas Pino. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.